Donc moi, je suis chercheur à Orléans dans l'unité Biofora. Ma spécialité, c'est la sylviculture et la modélisation. Et je vais présenter deux, trois idées à partir d'une étude INRAE-IGN qui a été conclue en 2017, dont l'objectif était d'estimer la contribution de la forêt et de la filière forêt-bois à l'atténuation du changement climatique. Et plus d'autres éléments, bien sûr, qui se sont rajoutés. Donc, on a beaucoup diffusé les résultats de cette étude dans une série de conférences-débats, 59 à ce jour. Donc, c'est une autre manière de sculpter ce que pensent les gens que la méthode de l'enquête. Ces conférences-débats, donc, elles étaient organisées avec un temps d'exposé assez long, parfois 1 heure d'exposé complet, entrelardé avec des moments de débat. Et on resituait le problème dans ce cadre-là, assez large, en montrant la place de la forêt dans l'ensemble des transitions écologiques et énergétiques, la mondialisation, le développement territorial, etc. Alors, ce sur quoi je voulais insister ici, c'est que les éléments d'arrière-plan qui étaient présentés et qui sont peut-être plus pertinents pour la discussion d'aujourd'hui, c'est d'une part de quelle façon les forêts sont attendues par notre société pour contribuer à la décarbonation de l'énergie, c'est-à-dire zéro émission nette en 2050. Et puis d'autre part, cet aspect-là, quand on parle changement climatique, souvent le point de vue est un peu spécialisé, c'est-à-dire est-ce qu'on peut freiner le réchauffement climatique par l'usage de solutions forestières ou est-ce qu'on peut adapter la forêt au risque climatique? Ce qui nous avait été demandé dans le travail, dans cette étude, c'est d'essayer d'avoir une réflexion intégrée sur la question climatique. Donc le contexte, c'est pas seulement de faire du rendement, de la rentabilité, d'approvisionner l'économie, c'est surtout d'approvisionner une nouvelle économie qui serait basée non plus sur des sources d'approvisionnement non durables, minières, non renouvelables, pour basculer vers une nouvelle économie dans laquelle les ressources biosourcées remplaceraient en quasi-totalité par exemple, des dérivés pétroliers ou du béton ou des métaux. Alors, ce n'est pas en totalité, bien sûr, mais en tout cas de façon massive, suffisamment massive pour changer complètement la manière dont on réfléchit au problème. Donc, ça pose toutes sortes de questions d'ingénierie, d'optimisation, de progrès dans les filières, dans les territoires que je ne détaille pas ici. Un deuxième aspect important pour expliquer ce qui va suivre, c'est que les forêts en France sont très très sous-exploitées. On a un taux de prélèvement moyen. Donc le taux de prélèvement, c'est le rapport entre exploitation et accroissement naturel net. La seule espèce en France où on est à 100%, c'est le pin maritime. Tout le reste, on est aux alentours de 50. Alors l'argument souvent utilisé pour contester une politique d'augmentation des prélèvements, c'est de dire une ressource jeune comme la ressource française, il est logique qu'elle soit en dessous de 100%, parce que quand une forêt est jeune, on la laisse s'accumuler, et c'est seulement quand elle arrive proche de la maturité qu'on est aux alentours de 100%. Simplement, on voit bien que ce raisonnement, il n'est pas juste, puisque même des espèces comme les chênes, les hêtres, les sapins, le pin sylvestre, qui sont des espèces présentes depuis très longtemps dans les écosystèmes, on est très très en dessous de 50%. Et le Douglas, qui est réellement une ressource jeune, on est déjà à 40%. Donc là, on sent bien qu'il y a ici la trace d'une sous-exploitation très forte des forêts ici. Alors, cette sous-exploitation, elle pose pas seulement de problèmes du point de vue économique, c'est-à-dire défaut d'approvisionnement des industries et donc de la société, elle pose aussi des problèmes écologiques par elle-même. Et enfin, le troisième élément de contexte qui joue un rôle important, à la fois dans la commande que nous avions reçue pour cette étude, mais aussi dans la diffusion des résultats, c'est la question des très grands risques émergents. Ici, on a l'exemple du dendrocton dans le continent nord-américain, qui est une très grande perturbation qui dépasse en amplitude, à la fois dans le temps et dans l'espace, tout ce qui était connu avant. Et ça, on sait que des événements analogues sont possibles, peut-être déjà en train de s'amorcer en Europe. Alors, je vais vous donner très peu d'éléments sur les résultats de l'étude, parce que j'en ai déjà présenté l'année dernière, en octobre, au séminaire midi. Donc je vais juste reprendre quelques éléments et je vais en particulier vous décrire un des trois scénarios. On a fait trois scénarios de gestion et mobilisation des ressources forestières. Ce premier scénario, c'est le tendanciel. Si on ne fait rien, le plus facile, c'est celui-là. Celui-ci, le gouvernement a considéré que c'était même pas la peine d'y penser. Et le gouvernement, je le dis parce qu'il a été très ferme dans cette affirmation. Celui-ci non plus, alors là, il est un petit peu plus ambitieux, mais il suppose un taux de récolte stable, c'est-à-dire on continue à récolter 50% de l'accroissement. Donc on est quand même très très en dessous de la gestion durable, 50%. Le seul scénario que le gouvernement a considéré là-haut comme une évidence et un minimum, c'est celui-ci, intensification avec plan de reboisement. Je donne pas trop d'arguments. Il y a là-dedans un plan de reboisement de 500 000 hectares, c'est-à-dire 3% de la surface française. Il y a toute une série de transformations très très fortes qui constituent, on peut le dire, un véritable défi, à la fois pour les forestiers, pour les industries et pour la société. Et tout ça pour arriver à un taux de prélèvement de 70% au niveau national en 2050. Donc ça veut dire que la forêt continuerait à s'accumuler, bien sûr, puisqu'on ne prélèverait pas la totalité de l'accroissement naturel. J'insiste un peu sur le fait que il y a eu une réception officielle de nos travaux par les pouvoirs publics. Ils se sont prononcés publiquement, de façon répétée et de manière très claire sur le fait que dans notre travail, la préférence des pouvoirs publics était pour ce scénario, en dépit de son caractère de véritable défi à tous les points de vue. Et la raison pour laquelle ça a été préféré, elle est multiple, mais la principale, c'est que c'est la seule trajectoire forestière en France qui permet au pays de respecter sa trajectoire de décarbonation nationale, tout secteur confondu. Et ça, c'est quand même un élément de cadrage que je crois important. Elle est déjà traduite dans la stratégie nationale bas carbone. Par exemple, si vous allez sur le site du gouvernement, vous regardez le niveau de prélèvement forestier qui est inscrit dans ces stratégies, il correspond à celui-ci. Alors, dans notre travail, un des résultats importants qui a beaucoup marqué les esprits, c'est cette partie-là. C'est-à-dire, on a essayé d'imaginer des scénarios de crise de grande ampleur. Par exemple, ici, dans une modalité tempête, scolite et incendie, donc les plaies d'Égypte, on s'est obligé à imaginer un événement très très fort par rapport au précédent historique. Donc, 5 fois la tempête Klaus de 2009, 2 fois la tempête Lothar-Martin de 1999. Donc, ce sont des événements qui sont réellement très importants, de nature équivalent à peu près à 6 années de récolte au rythme actuel. Et comme la récolte est équivalente à peu près au stockage de carbone, ça veut dire que là, dans un événement comme ça, si on n'arrive pas à récolter les produits qui restent en forêt, ça veut dire qu'ils vont être relargués sous forme de dégradation du carbone vers l'atmosphère. C'est donc 6 années actuelles de stockage de carbone qui peuvent être perdues par un événement comme ça. Donc ça permet de réfléchir un petit peu à une stratégie qui est aujourd'hui la stratégie quasiment préférée de beaucoup d'acteurs, qui est aussi une stratégie par inertie, qui est de dire les forêts actuellement en France stockent du carbone dans la biomasse, dans l'écosystème, continuons comme ça, c'est très bien, c'est bon pour la planète, et puis ça ne demande pas d'efforts, pas d'investissement, etc. Ce qu'on voit ici avec un raisonnement comme ça, c'est que cette stratégie qui vise essentiellement sur le stockage de carbone dans l'écosystème est très exposé aux aléas et que ces aléas peuvent évidemment apparaître de façon très brutale. Bien entendu, la perturbation la plus impactante, ce serait deux nouvelles maladies émergentes et qui s'attaqueraient essentiellement aux chênes. La forêt française, on le voit ici, est vulnérable essentiellement par ses feuillus. Et c'est bien compréhensible puisque nous avons une forêt qui est massivement feuillue, ce qu'on ne voyait pas du tout dans le reportage, bien entendu. Et deuxièmement, ces feuillus sont très, très sous-exploités. Donc, on n'y fait pas de travaux, pas de coupes. Et donc, ils sont en train de se capitaliser. Les forêts sont en train de se capitaliser, de pousser beaucoup en hauteur et donc devenir vulnérables par rapport à l'ensemble des aléas. La tempête, bien sûr, les insectes, les maladies émergentes, la sécheresse, de façon relativement convergente. Un autre élément qui est important par rapport au risque climatique, c'est le volume moyen par hectare. C'est un petit peu technique, c'est la quantité de biomasse qu'on stocke, la densité de biomasse en fait par hectare. On voit qu'on est dans une trajectoire de capitalisation quand on prend l'historique. Le domanial est à peu près stable, et ça c'est un indicateur important. La forêt domaniale, c'est celle qui est gérée durablement depuis le plus longtemps, avec une forte technicité de travaux, de coupes, de chasse aussi. On voit qu'elle est à peu près stable, elle se régule de temps en temps par les tempêtes, et elle nous donne quand même un indicateur sur qu'est-ce qu'on peut associer comme valeur de densité de biomasse par rapport à la gestion durable des forêts. Les forêts privées, c'est logique qu'elles soient en train de se capitaliser, puisqu'elles sont beaucoup plus jeunes. Ça, c'est pour l'historique. Et ce qu'on voit vers l'avenir, dans nos trois scénarios, c'est que tous les trois projettent une poursuite de la capitalisation, que même avec un scénario très ambitieux comme intensification, on continue à capitaliser un petit peu. Et surtout, cela nous amène dans une gamme de densité de biomasse sans précédent historique. Et ça, il faut le regarder à l'aune du réchauffement climatique qui va nous amener un accroissement des risques forestiers, une prégnance beaucoup plus forte des sécheresses, toutes les petites populations d'insectes, de champignons pathogènes, etc., qui n'attendent que ces aléas sécheresses pour ensuite tomber sur nos forêts comme la vérole sur le bas clergé breton. Et donc ça, c'est un élément qui est quand même qui a joué un grand rôle, disons, pour dans la réflexion des gens sur en quoi c'est utile d'intensifier la gestion des forêts françaises. Voilà. Maintenant, je passe à un deuxième élément d'argumentation. Donc là, qui s'éloigne un petit peu de l'étude INRA-UGN, mais qui va me permettre d'illustrer en quoi les plantations peuvent jouer un rôle dans la mise en œuvre de telles perspectives, donc de remise en gestion des forêts françaises, par rapport aux différents enjeux climatiques. Alors, un premier aspect, c'est raccourcir les révolutions forestières. Actuellement en France, là encore, le film de Drouet nous donne pas une image significative des forêts françaises. La plupart des forêts françaises sont cultivées avec des cycles très longs, 250 ans pour le chêne, plus de 150 pour le hêtre, pour le sapin, le pin sylvestre, 120 pour l'épicéa. Il y a encore beaucoup de douglasais en forêt publique, notamment, qui sont cultivés à 80 ans, ce qui est long pour du douglas. Bien. Alors, nous savons depuis plus de 25 ans, grâce aux travaux de la recherche et aux grandes catastrophes qui ont été observées, décryptées, analysées, que les très longues révolutions exposent davantage aux risques climatiques, et notamment aux dégâts de tempête. Les chercheurs ont préconisé, déjà depuis plus de 20 ans, de raccourcir les révolutions et augmenter le rythme de prélèvement. Ces préconisations n'ont pas été appliquées en France. Je ne m'étends pas sur les raisons de ça. Mais les motivations restent là, elles sont même encore plus prégnantes aujourd'hui. Et ça reste nécessaire de raccourcir les révolutions partout où elles sont trop longues, dès lors qu'on dit qu'on veut faire de la gestion durable. Et il faut être conscient de ce que ça veut dire. Raccourcir les révolutions pour du chêne, on passe de 250 à 120, par exemple. Hein ? Pour du hêtre, on passe de 150 à 70. C'est ça qui est en jeu. Ce qui veut dire multiplier par 2 le taux de renouvellement, donc beaucoup plus de surface ouverte en régénération, beaucoup plus de piles de bois le long des chemins, donc beaucoup plus d'impact visuel, bien entendu. Et ça n'est pas la conversion en futaie irrégulière qui va changer fondamentalement la donne. Si vous passez en futaie irrégulière tout en gardant un objectif de minimisation des risques, vous êtes amené à baisser le diamètre d'exploitabilité et donc à augmenter le niveau de récolte. Donc ça fait partie des choses qu'il faut être capable de formaliser dans un raisonnement un petit peu complet, intégré, qui ne parle pas seulement d'économie d'industrie, mais qui parle aussi de durabilité des forêts par rapport aux risques. Et dans ce contexte, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que capitaliser du bois en forêt, c'est accroître le niveau de risque. Deuxièmement, que orienter toutes les forêts vers la production de très gros bois, c'est s'engager dans une impasse économique. Certains des intervenants du film ont expliqué l'histoire du sillage canter qui amène à privilégier des petits diamètres. Mais lorsque vous regardez la ressource française, il y en a une proportion de plus en plus importante qui se concentrent dans les très gros bois, pour lesquels nous n'avons pas aujourd'hui de solution technologique viable pour la transformation. Et ça ne sert à rien d'accuser les Finlandais et les Autrichiens. Si nous voulons du sciage moderne, performant pour scier des très gros bois, c'est à nous de l'inventer, parce que c'est nous qui avons la ressource. En l'état, s'orienter massivement vers la production de très gros bois, gros comme ça, pour toutes les essences, c'est mettre toute la ressource française en péril, notamment vis-à-vis de risques climatiques. Et puis enfin, il y a un autre aspect, c'est que ces procédés décriés par M. Bedel, qu'on voyait à l'écran tout à l'heure de l'ONF, le siège Canter, là, c'est des procédés qui permettent de dégager un maximum de valeur économique dès le diamètre 35 et jusqu'au diamètre 50, ce qui veut dire que nous avons la possibilité, grâce à ce sciage, d'imaginer des itinéraires sylvicoles qui vont pas trop loin en diamètre, qu'on peut arrêter aux alentours de 50. Et ça, c'est un élément très important, parce que et la courbe est plate en plus, hein, entre 35 et 55. Ça veut dire que ça nous donne à la fois des opportunités pour imaginer des sylvicultures à courte révolution et en même temps dégager beaucoup de valeur dès 35. Alors maintenant, je vous montre une petite illustration où on va voir l'usage des plantations pour de la forêt de chêne. C'est peut-être pas là où on le pense le plus spontanément. La forêt de chêne, actuellement, elle est régénérée massivement par la première option, régénération naturelle à l'identique. Donc, on provoque la régénération des enfants de ces arbres-mères qui sont là sous elles-mêmes. C'est quasiment à 95% la méthode actuelle. On peut imaginer, et même on doit imaginer aujourd'hui, dans le contexte du risque climatique, de diversifier avec toutes ces options-là. Toutes sont possibles, toutes ont un intérêt. Par exemple, faire de la chênaie à cycle très court pour faire du turnover de patrimoine génétique. Il va y avoir de la sélection qui va se faire spontanément en forêt pour des caractères de résistance à la sécheresse, par exemple. On peut imaginer de faire tourner plus rapidement cette sélection naturelle. On peut planter des provenances méridionales, par exemple remonter des populations de chênes déjà acclimatées à la sécheresse vers des stations qui aujourd'hui sont plus humides, mais qui vont connaître les mêmes niveaux de sécheresse dans les décennies qui viennent. On peut aussi imaginer de planter des chênes pubescents ou des chênes tosins ou des choses comme ça, qui vont se brasser elles aussi génétiquement avec les chênes sessiles locaux, par exemple. Et puis bien sûr, introduire des espèces acclimatées ou des exotiques. Donc ça, c'est tout un panel qui est possible dans le cadre actuel de la sylviculture, et on peut imaginer qu'il soit combiné, c'est-à-dire que les aménagistes des massifs forestiers décident de diversifier leurs options dans un même massif. Alors, ce qui est en jeu là derrière, c'est que d'une part, les essences sociales majeures d'aujourd'hui ne sont pas à l'abri de grandes crises sanitaires. Pour l'instant, on touche du bois, on n'en a pas encore connu des traits préoccupante, mais on sait que c'est possible. Pour le chêne, par exemple, on connaît déjà des noms d'agents pathogènes présents dans d'autres continents qui peuvent affecter nos propres chênaies. Et deuxièmement, on connaît déjà le nom des insectes vecteurs qui sont susceptibles de les disséminer, locaux. Et ça veut dire que ça doit nous conduire, dans un travail de pédagogie, à dissiper un certain nombre de mythes, et notamment le fait que la végétation locale n'est pas nécessairement la plus adaptée ni la plus robuste, résiliente dans la perspective des risques. Il y a un autre petit message aussi, c'est le caractère intentionnel de l'aménagement forestier. Ça, les forestiers eux-mêmes ne l'assument pas nécessairement quand ils communiquent avec la société. Lorsque vous aménagez un massif de chênes, même s'il donne une impression de naturel aux visiteurs, à la population, ça paraît très biodivers, très beau, etc. C'est un objet créé par l'homme. Et ça, si on choisit de ne pas l'assumer face à la société, on se prive complètement de moyens d'argumentation lorsque la situation tourne mal. Donc il y a quelque chose d'une impasse politique là-dessous. Troisièmement, utiliser le potentiel génétique qui existe. Là, vous avez deux plantations côte à côte, même âge, un clone de peuplier cultivé, et puis du chêne pédonculé et du frêne, donc sur des sols alluviaux, tous les deux indiqués. On voit très bien ici que la performance est très différente, pas seulement en termes de rendement de d'euros à l'hectare, mais également en termes de pompage de carbone. Et ça, c'est une question qui va être fondamentale, c'est-à-dire nous devons garder un très fort niveau d'efficacité pour le piégeage de carbone avec nos surfaces forestières. Cela peut passer par l'usage de variétés améliorées à très forte performance. Ça veut dire en particulier, là, le message, bien entendu, il faut se servir de l'amélioration génétique. Le message, c'est que la productivité par hectare n'est plus un objectif secondaire aujourd'hui du fait de la crise climatique. Nous avons besoin des forêts pour piéger du carbone, pour injecter les produits dans la sphère économique et pour substituer du béton, du métal, du plastique et toute la pétrochimie. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de faire des beaux arbres comme nous montrait le sylviculteur avec son merisier. On a besoin d'utiliser les hectares de forêt de manière efficace pour remplacer du pétrole. Et ça, c'est un enjeu qui est tout à fait différent. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la peau à tous les merisiers. Ça veut dire qu'il faut avoir en tête une gestion intégrée des différentes surfaces pour qu'un nombre suffisant soit productif. Les plantations, c'est aussi les résineux qui sont très décriés. Il n'y a pas que le peuplier, ni l'acacia, ni l'eucalyptus. Et je vous ai mis exprès ici une très très belle parcelle de la forêt de Belém. Vocation Mérin, chêne à Mérin, très très haute qualité, des chênes absolument somptueux. Et en plus, cette parcelle, on la connaît bien à la recherche parce qu'elle a fait l'objet d'une placette expérimentale de sylviculture dans les années 30, qui a été mesurée pendant une trentaine d'années, ensuite régénérée, rendue à la gestion. Et puis récemment, on a réinstallé une placette qu'on appelle de seconde génération, où on observe maintenant les enfants de la population des années 30. Alors, une partie de la parcelle probablement avait été ratée en régénération, donc ils ont planté des Douglas dans les années 60. Les Douglas, là, vous les voyez ici, ils sont absolument superbes. Il y a de la biodiversité en dessous, hein, vous voyez. Ils sont mûrs, donc hop, ils peuvent passer en coupe rase. Et maintenant, vous allez voir dans quel état sont les chênes de la même parcelle. Ils sont absolument sublimes, eux aussi. Ça fera du chêne à Mérin si les petits cochons ne les mangent pas. Mais ils sont dans leur préadolescence, ces chênes, hein, par rapport aux Mérins. Les Mérins, il faut les amener à cette grosseur-là, quoi, hein. Donc, avec le même sol forestier, on va certes produire ici du bois qui vaudra, comme il a dit dans le film, 5 fois plus cher, mais il va falloir attendre une centaine d'années encore. Alors que le Douglas, pendant ce temps-là, il aura fait ce cycle-là qui est déjà mûr, plus 2 cycles si on décide de replanter du Douglas dessous. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Ça veut dire, d'un côté, ici, on va mettre 120 ans minimum, 150 ans peut-être pour faire du tonneau, qui va certes servir à élever 2, 3, 4 cuvées de vin successives. Mais là, on va faire 3 cycles de Douglas qui vont permettre de construire des maisons à ossature bois. Donc, faut avoir ça en tête aussi lorsqu'on réfléchit au mix espèces. Puis bien entendu, là, on utilise un petit argument écologique que vous connaissez, qui est que c'est utile de mélanger les espèces pour réduire les risques. Et donc, l'enjeu, là, c'est pas seulement de planter des chênes pédonculés dans les Landes d'Aquitaine pour diversifier le pin maritime, c'est de diversifier les massifs de chênes ici autour de chez nous, qui sont d'une pureté effrayante. La forêt domaniale de Loche, 92% de chênes. Montargis, 85%. Bertrange, vers Nevers, 79% de chênes. Donc là, on a une réussite économique incroyable, on a des forêts qui sont magnifiques, mais elles sont en danger, ces forêts. Donc, les diversifier avec de la plantation résineuse, c'est une mesure de précaution, ce n'est pas une mesure de prise de risque. Alors ça, c'est très provocant, donc je le répète à chaque fois. Alors, résineux, ce n'est pas que du Douglas. Ce qui est sûr, c'est que le pin maritime et le Douglas sont 2 espèces qui vont forcément jouer un rôle très important dans les décennies qui viennent, parce qu'il y a de la diversité génétique, il y a de la performance, de la qualité, il y a des usages, et puis on l'a vu, il y a des filières derrière qui savent scier et valoriser ces espèces. Et en plus, le Douglas, on peut l'utiliser pour le duramen en extérieur, donc ça, c'est des usages qui sont très précieux. Mais il n'y a pas que ça, on peut proposer d'autres solutions résineuses. Alors, je ne fais pas trop la pub de Biesse Grandis, un petit peu moins maintenant, parce que là, on n'est plus trop sûr de nous. Mais Procera, il est très bien, c'est un Américain. Et puis le Sequoia, bien sûr, et puis il y en a plein d'autres. Et puis enfin, dernière illustration sur la plantation, la migration assistée. Ça, c'est un truc totalement écolo. C'est comment conserver des ressources génétiques menacées aujourd'hui en allant les mettre un peu au frais. Donc là, ce qui est typique, c'est qu'on va prendre les petits hêtres de la Sainte-Baume, on va récolter les graines. La Sainte-Baume, c'est vraiment un petit isolat de hêtres qui est très, très, très vulnérable dans le changement climatique, puisque là, on va avoir la savane hein, dans cette région-là. Donc on va l'élever en pépinière ici, puis après, on va le planter à Verdun. Donc c'est le projet qui s'appelle Giono, qui est conduit par l'ONF, dont le but, c'est de mettre à l'abri les ressources génétiques temporairement. Et puis aussi, là-haut à Verdun, les petits hêtres de la Sainte-Baume, ils vont échanger leurs gènes avec les hêtres de Verdun. Et donc, ça va produire du brassage génétique qui, on l'espère, aura des vertus adaptatives. Voilà. Alors, tout ça, on l'a discuté dans toutes ces conférences. Je vais passer assez vite sur cette partie-là du travail. Donc, c'est des auditoires assez variés dans les régions, les types de publics, etc. On n'a pas parlé qu'à des forestiers et à des ONG. On a parlé y compris à des grands groupes comme Engie, les industries de la métallurgie, de l'énergie, des assureurs comme Groupama aussi, la Caisse des dépôts, etc. Les acteurs qui ont été le moins représentés dans ces consultations, c'est les chasseurs qui sont jamais tellement présents dans ces, officiellement en tant que tels dans ces assemblées. Et puis les associations d'amis de la forêt, il y en a quand même pas mal autour des grandes forêts très emblématiques qu'on n'a pas vraiment réussi à toucher jusque-là. Alors c'est pas toujours très calme hein, ce genre de débat. De temps en temps, j'ai eu à débattre très rudement avec des groupes assez militants, notamment SOS Forêt, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont assez proches de ce que racontaient les agents ONF qu'on a vus dans le film. Très, très opposés à l'industrialisation du bois énergie, par exemple. Alors, je ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, c'est-à-dire dans ces débats, il y a des idées qui diffusent, sur lesquelles il y a du consensus qui s'établit assez vite. Je vous montre que les sujets dont moi j'ai constaté qu'ils étaient vraiment des sujets de dissensus très forts. Le premier, c'est les coupes, bien sûr. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire de pédagogie, de création du consensus autour des coupes forestières. Le fait de dire on va tout passer en forêt irrégulière, c'est un peu une manière de noyer le poisson. La forêt irrégulière ne va pas résoudre tous les problèmes. Elle peut même en créer par effet pervers. Nous aurons besoin de savoir faire des coupes rases. Après, on peut imaginer des solutions techniques pour atténuer un petit peu les inconvénients de la coupe rase, notamment par l'assiette des coupes. Et ça vaut notamment pour les questions de ravinement, d'érosion, de dégradation des sols, mais aussi de perception paysagère. Donc, il y a des marges de progrès par l'assiette des coupes, tout en gardant le geste technique coupe rase. Et ça, on a vu que la coupe rase sera nécessaire pour certaines des modalités de renouvellement. Deuxième aspect, les espèces venues d'ailleurs. Donc, l'acclimatation, c'est un procédé qui existe depuis très longtemps. Il a donné des grands succès. Par exemple, le Douglas, bien sûr, hein, c'est un des exemples emblématiques. Mais il n'y a pas que le Douglas, il y a le cèdre par exemple, hein, qui a donné des très bons résultats, et puis il y en a plein d'autres aussi. Il y a châtaignier aussi, on l'oublie un peu, châtaignier est le résultat d'une acclimatation. Ce procédé a eu des succès dans le passé, aujourd'hui il est devenu extrêmement difficile à expliquer, à justifier, parce qu'on considère que ça revient à introduire, si on peut dire, des non-désirables dans les forêts. Alors, il y a des risques réels. Tout à l'heure, Amélie a parlé du risque invasif avec Acacia. C'est un risque qui, comme tous les risques, peut se calculer. C'est-à-dire, il y a des espèces. En arboretum, vous voyez déjà qu'il faut les éradiquer tout de suite parce qu'elles sont déjà très envahissantes dans la petite population en arboretum. Il y en a qui sont chez nous depuis plusieurs siècles, comme le robinier, qui ont tendance à être un peu envahissants sur les marges. Mais on pense qu'on doit savoir protéger nos écosystèmes de la divagation du robinier. En tout cas, il présente suffisamment d'intérêt, cet arbre, pour qu'on prenne le temps de contrôler sa diffusion. Et puis on connaît les habitats aussi à protéger tout spécialement de l'invasion du robinier. Et surtout, l'essentiel des pestes forestières qu'on connaît ne vient pas des introductions forestières, il vient, vous le savez, de la mondialisation, des jardineries, des espèces qu'on introduit de façon totalement non contrôlée, aberrante dans tout le périurbain, hein, où on crée de fait une matrice idéale pour propager les maladies, essentiellement les maladies asiatiques aujourd'hui, bien sûr. Un troisième aspect qui ressort bien, c'est que les gens adorent le bois, mais ils n'aiment pas qu'on coupe d'arbres. Et je dirais, plus ils sont éduqués, plus ce conflit que vous avez signalé tout à l'heure, plus ce conflit est dur, en fait. Et il faut se poser des questions réellement sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez construire en bois parce que c'est bien pour la planète et aller acheter le bois en Scandinavie, comme disait Philippe Siat, ou au Brésil ? Et peut-être par ce biais indirectement contribuer à la dégradation d'écosystèmes là-bas, ou est-ce que vous êtes d'accord de faire de la gestion durable à proximité de chez vous, quoi. Donc ce qui est en jeu là, c'est, j'ai utilisé le mot licence pour l'action, parce que pour l'instant je considère qu'elle n'existe pas, il n'y a plus de licence. Alors pour la retrouver, il y a un effort d'élaboration conceptuelle aussi, et de pédagogie, c'est-à-dire expliquer ce que c'est la gestion durable des forêts. C'est un peu abstrait, c'est pas facile à faire comprendre au grand public que quand vous faites une coupe à cet endroit-là, c'est un élément du cycle sylvicole, c'est-à-dire que là, effectivement, vous enlevez la population mère, et puis dans 10 ans, vous aurez les enfants qui vont pousser, ou une plantation, et que ailleurs, par contre, ça va grandir, et une autre parcelle va remplir à l'autre bout de la forêt les fonctions que remplissait la parcelle mûre à cet endroit-là avant qu'on la coupe. Donc ça, il y a un aspect de shifting mosaïque des classes d'âge dans une forêt. Vous avez l'équivalent en forêt naturelle, vous avez la shifting mosaïque des stades sylvigénétiques. Donc dans les deux cas, on a bien un cycle mobile dans le temps et l'espace. Pourquoi on ne serait pas capable de l'expliquer? Et là, on bute sur quelque chose qui, je crois, est important dans les témoignages, dans ce qui est ressorti dans l'enquête d'Amélie, c'est que le sujet, ce n'est pas de savoir seulement si c'est biodivers ou pas, est-ce que c'est pur ou pas, est-ce que ça a l'air artificiel ou pas. La hêtraie, comme je l'ai dit, la hêtraie, elle est aussi pure que la douglasée, alors qu'éventuellement même elle est d'origine naturelle. Je pense que ce qui est en jeu, c'est du sensoriel, des émotions qu'on associe. Excusez-moi, moi-même j'ai du mal de le sortir. Et même peut-être quelque chose qui a trait avec le sacré. Certainement, la question des abatteuses, pour moi, ça a vraiment question. Est-ce que nous avons le droit d'envoyer des machines pareilles dans nos forêts pour couper des arbres? Alors que, bien entendu, nous le tolérons en agriculture. Personne n'imaginerait de récolter des céréales sans moissonneuse. Et même en bio, quand vous regardez, le bio utilise massivement de la mécanisation, et même de la mécanisation très pointue, et pas très légère en kilos par centimètre carré. Donc la question, je crois, elle est un peu plus compliquée que simplement l'écologie, ou l'état des sols, quoi. C'est des questions plus complexes, je crois. En tout cas, la réponse n'est pas que dans l'écologie, c'est sûr. Et pour conclure, j'aime bien passer par cette petite photo de mon frère, parce que beaucoup de gens qui s'expriment sur comment cultiver les forêts vivent dans des habitats comme ça, particulièrement neutres en carbone, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous détailler tout ça. C'est des choses que j'avais déjà un peu racontées à Tours l'année dernière. Les deux messages importants ici, c'est ces deux-là. Donc, la plantation est effectivement une dimension essentielle pour relever le défi du changement climatique. Ce n'est pas seulement planter des forêts très tournées vers l'industrie, cycle court, machin et tout. C'est aussi planter de nouvelles espèces, donc introduire. C'est déplacer des provenances du sud vers le nord ou du sec vers l'humide. Et puis aussi changer la composition variétale. On a parlé de, c'est pas durable effectivement de faire un pays entier avec un clone d'acacia ou de peuplier. Mais par contre, on peut faire du multiclonal, faire tourner les clones. On peut faire une gestion intelligente du paysage clonal, par exemple, de façon à freiner la propagation des maladies. Donc, dans tous les cas, je suis tout à fait convaincu que la plantation est totalement incontournable pour relever le défi climatique. Et pour la France, c'est un handicap puisque précisément nous avons un savoir-faire en régénération naturelle qui est très très élevé. Et puis dernier point, trois sujets plutôt philosophiques, mais je crois qu'ils sont importants pour nourrir la pédagogie en amont d'un débat public. Le premier, c'est regarder les forêts dans l'espace et le temps. Ça, c'est très difficile à faire, mais je crois que c'est important que les forestiers sachent donner à voir au grand public de quelle manière les forêts sont en permanence en train d'évoluer et de quelle façon. Il y a des solutions à la clé, par exemple ce qu'on appelle gestion multi-échelle, là, c'est la capacité à gérer les ressources forestières, pas seulement au niveau de l'arbre, mais du peuplement, du massif et supra. Et ça, ça permet d'imaginer des stratégies du type, là, on va faire de la plantation de Douglas parce que c'est efficace. C'est ça qui est nécessaire pour la transition écologique et énergétique. Mais on n'est pas obligé de faire 100 000 hectares de Douglas continu. On peut imaginer de diversifier ses options, mettre du mélèze. Ici, on met un peu de bouleau, etc. Donc, on n'est pas obligé de mélanger non plus pied par pied. On peut imaginer de diversifier les formes de couvert végétal à l'échelle du paysage. Et ça, ça suppose d'avoir les capacités à faire de la gestion multi-échelle. Pour l'instant, il n'y a que la forêt domaniale qui a réellement cette capacité en France, puisqu'il y a une unité de propriété et des procédures d'aménagement codifiées. En revanche, dans tous les paysages qui sont massivement de la petite propriété privée, il n'y a aucune nécessité pour les acteurs de se concerter pour diversifier leurs options. Et ce n'est pas la politique de la Caisse des dépôts ou des assureurs qui fait qu'il y a autant de Douglas dans le Limousin ou dans le Morvan. C'est parce qu'il y a des décisions individuelles d'acteurs qui cherchent à maximiser leurs profits. Ce qui peut les amener à faire autrement, c'est l'existence de procédures de gestion collective, multipropriétés, qui permettent de distribuer les aménités dans le paysage. Un deuxième sujet, on l'a bien senti aussi, c'est la perception de nature et la perception de la culture qu'il y a dans la forêt. Il y a un exemple qui m'a beaucoup fasciné, c'est qu'est-ce que les gens aiment dans les forêts domaniales d'Île-de-France ? Ils aiment des beaux chênes, magnifiques, très hauts, très hauts, très hauts, et 20 mètres sans branches, 35 mètres de haut. C'est vrai que c'est absolument somptueux. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à l'ONF de faire ? Convertir en futaie irrégulière les forêts d'Île-de-France de façon à arrêter les coupes rases. Ce que personne leur a expliqué, c'est qu'en faisant ça, ils vont récupérer des chênes branchues, il y aura des branches à 8 mètres de haut. Nécessairement, parce que c'est dans la logique de l'irrégularité, les arbres, dès qu'ils ont la tête au soleil, ils étendent les branches, quoi. Donc, finalement, les caractères de beauté qu'ils apprécient aujourd'hui dans ces forêts, ils sont l'héritage de l'élevage en futaie régulière, bien serré, avec beaucoup de compétition. Et donc, c'est exactement le contraire de ce qui est aujourd'hui mise en œuvre, quoi. Et ça, pour dépasser ça, il faut d'abord arriver à faire comprendre aux gens que la forêt, c'est pas seulement un bloc de nature, c'est aussi des façons sylvicoles, du travail, de l'entretien. Et si on n'assume pas ça, on se prive de possibilités de pédagogie. Voilà, je ne commente pas le dernier point parce que j'ai déjà été trop long, mais je pense que c'est aussi sous-jacent à... c'est la remarque que tu faisais, là. Les gens ne se rendent pas compte que le bois, ça vient de la forêt. De même, ils ne savent pas que le lait vient d'une vache. Enfin, c'est des éléments de déshumanisation qui sont généraux dans la société. Donc, il y a un travail de reconstruction du lien entre les usages, les écosystèmes et l'action humaine qui est vraiment indispensable, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin pour, autour des plantations, quoi. Je vous ai mis un petit camion pour... Parce que les garçons, ils aiment bien les camions.